Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission des Radio Okapi intitulée Regard sur la tête de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la tête de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue la tête de la semaine, nous recevons Willy Kalenga. Il est journaliste et il est directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturel. Bonjour Willy Kalengai.
Bonjour Radio Okapi, bonjour du matin et bonjour aussi à aux autres amis qui sont là.
Madame Solange Loachiga, elle est membre de la société civile du Sud Kivu, elle est secrétaire exécutive du caucus des femmes de cette province, elle est aussi activiste et défenseur des droits des femmes. Bonjour Madame Solange Loachiga.
Bonjour Guy Maté, bonjour à tous les auditrices et auditeurs de Radio Okapi.
Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, c'est Eddy Kaba, il est journaliste et universitaire, il est président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, think tank basé à Paris. Il a publié récemment l'ouvrage intitulé « Le Sahel, notre Afghanistan ». Bonjour Eddy Kaba.
Bonjour à vous, bonjour à mes co-débatteurs et bonjour à tous vos auditeurs et auditrices.
Merci et à tout de suite pour la rétrospective des 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur la tête de la semaine, l'émission qui passe en revue la tête qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Connaissez-vous la monkeypox? C'est une maladie virale contagieuse qui se transmet principalement par contact direct de l'animal trouvé mort ou malade avec ou sans signe de monkeypox à la personne non malade. Entre les hommes, la transmission de la monkeypox s'est faite à travers des lésions, voire plaies de liquide organique comme la sueur, des gouttelettes respiratoires, des objets souillés par des malades de monkeypox et le rapport sexuel avec une personne malade de monkeypox. Pour nous protéger contre la monkeypox, il faut éviter de toucher les animaux malades ou trouver morts sans cause, éviter tout contact physique ou sexuel avec une personne malade de monkeypox et éviter tout contact avec les objets souillés par des malades de monkeypox.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler gratuitement au 151 ou adressez-vous directement à un prestataire de santé ou à un agent de santé communautaire.
Nous sommes de regard sur la tête de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Willy Kalenga. Il est journaliste et il est directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturelles. Madame Solange Loachiga, elle est membre de la société civile du Sud Kivu. Elle est secrétaire exécutive du caucus des femmes de cette province. Elle est aussi activiste et défenseur des droits des femmes. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, c'est Eddy Kaba. Il est journaliste et universitaire. Il est président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, le think tank basé à Paris. Il a publié récemment l'ouvrage intitulé « Le Sahel, notre Afghanistan ». Au menu de cette émission, les manifestations de l'opposition à Kinshasa pour exiger la libération des prisonniers politiques. Plus de 2550 détenus ont été libérés en l'espace de 2 mois de la prison centrale de Makala à Kinshasa. Et enfin, le département du travail des États-Unis d'Amérique inclut le cobalt congolais dans la liste des biens produits par le travail des enfants en 2024. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet du discours que le chef de l'État congolais a prononcé à la tribune des Nations Unies mercredi 25 septembre. En effet, dans son oral à la tribune de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État congolais a réitéré son appel à la communauté internationale à prendre des sanctions ciblées contre le Rwanda. Félix Tshisekedi a accusé le régime de Kigali de déstabiliser la partie est de la RDC en appuyant la rébellion du M23 et ses supplétifs. Pour le président de la République, cette agression rwandaise constitue une violation majeure de la souveraineté congolaise. Il a ainsi encouragé la communauté internationale a condamné fermement les actes du régime de Kagame pour son rôle déstabilisateur et néfaste en RDC. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle, a poursuivi Félix Tshisekedi. Willy Karengaï, le chef de l'État congolais, réitère son appel à la communauté internationale à prendre des sanctions ciblées contre le Rwanda. On se rappelle que ce n'est pas la première fois que cet appel est formulé par la RDC. Est-ce que la voix congolaise portera un jour? Est-ce que par toutes ces dénonciations verbales, on peut espérer pousser certaines puissances à changer des perceptions sur la crise entre le Rwanda et la RDC?
Je pense qu'il ne faut pas simplement considérer ça comme simplement des paroles. Les déclarations d'un chef d'État à ce niveau-là, ce n'est pas simplement de la parole, ce devient des actes posés. En effet, quand vous observez très bien, vous allez voir que il y a eu quand même des grands frémissements dans les postures antérieures. Notre pays, qui avait d'abord pas droit à la parole, aujourd'hui, l'agenda du Congo est mis sur la table des grands. C'est vrai qu'on n'a pas encore ressenti directement les changements, mais je pense que le fait même qu'il y ait eu des manifestations pour empêcher le Congo d'adhérer au Conseil de sécurité comme membre non permanent, et tout ceci montre que la communauté internationale est quand même sensibilisée sur l'injuste sort qui est réservé au Congo dans cette configuration mondiale. Je vous dis que c'est vrai que la diplomatie, peut-être les effets ne sont pas radicaux immédiatement, mais avec le temps, en insistant, comme une goutte d'eau, progressivement, même une montagne peut fendre si la goutte d'eau est permanente. Je crois que je suis optimiste, les propos du chef de l'État n'ont pas changé d'un iota. Ça veut dire en réalité que les autres ont fait beaucoup d'efforts pour rejoindre la vision congolaise. Ça changera certainement, et ce n'est pas des simples paroles, parce que les déclarations en politique valent les actions.
Merci. Les déclarations en politique valent les actions, c'est ce qu'on retient. Madame Solange Lwachiga, que répondez-vous à ceux qui pensent qu'au lieu de continuer, n'est-ce pas, avec cette rhétorique, il faut plutôt mettre en place des mécanismes qui peuvent permettre à la RDC de modifier les rapports des forces sur le terrain?
Oui, je pense que cette opinion n'est pas à négliger, parce que vous savez, devant une situation où la population a tant souffert avec cette guerre d'agression, c'est-à-dire le vœu de la population, des femmes, des hommes, et c'est de voir notre pays afficher des rapports de force égalitaire, si pas égalitaire, supérieure par rapport à la guerre sur terrain. Mais je pense également que cette question qui touche les nations au-delà de nos frontières, le discours du président de la République est un discours encourageant, parce que même en termes de plaidoyer, quand tu as un problème, tu as un espace d'expression, c'est toujours pertinent de revenir sur la même question, la même problématique pour insister. Et donc, pour moi, je pense qu'il y a lieu de combiner les deux, parce que en parlant aux Nations Unies, en demandant qu'il y ait des sanctions contre le Rwanda, le retrait des M23, il est impérieux. Et il est capital que notre pays puisse afficher des forces égalitaires ou supérieures par rapport à la guerre sur terrain, et donc fournir des efforts pour bouter l'ennemi hors de nos frontières.
Merci, Saïdi Kaba. Vous allez aussi réagir par rapport à cette approche qu'utilise souvent la RDC, celle d'appeler à des sanctions contre le Rwanda. Mais aussi, quand vous suivez les discours de Félix Tshisekedi, il dit qu'il renouvelle, n'est-ce pas, le soutien de la RDC dans les processus de Luanda. Si ces mécanismes de Luanda a eu le mérite, n'est-ce pas, de proposer un accord de cessez-le-feu récemment entre les belligérants. Et à votre avis, quelles pourraient être les limites de ce processus de Luanda?
Oui, le processus de Luanda présente quelques limites parce qu'il repose sur la volonté de différentes parties contractantes. Il repose aussi sur la volonté du Rwanda d'accompagner sa mise en œuvre. Et de ce point de vue, si le processus repose sur la volonté, simplement parce qu'il n'est pas contraignant. C'est pas une résolution du Conseil de sécurité qui a une valeur contraignante. Le processus repose sur la volonté des partis qui se sont engagés. Je crois que la démarche du président Tshisekedi peut être comprise comme à la fois une main tendue aux autres acteurs du conflit pour qu'ils choisissent le camp de la paix, mais aussi un appel à la communauté internationale parce que sa crédibilité est aussi en jeu. À mon avis, le lieu qui a été choisi pour tenir ce discours et le contexte aujourd'hui fait que ce discours peut avoir un écho différent. Parce que comme vous savez, si la communauté internationale qui aujourd'hui monte sur ses grands chevaux pour exiger le respect du droit international dans la guerre en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine veut être audible, veut être crédible aux yeux, il faut que l'application du droit international, le principe de la dénonciation de l'accord soit le même, quelles que soient les parties du monde où il se produit. Vous avez vu beaucoup de chefs d'État africains, je pense aussi au président sénégalais, qui a dit que la communauté internationale ne doit pas avoir une appréciation à géométrie variable du droit international selon qu'on soit au Proche-Orient, en Russie ou en Afrique. Donc de ce point de vue, à mon avis, c'est une façon de mettre aussi la communauté internationale devant ses responsabilités, surtout dans un cadre comme celui de l'Assemblée générale des Nations Unies, où on se trouve vraiment au cœur du multilatéralisme. L'Assemblée générale des Nations Unies, c'est l'endroit où le multilatéralisme est le mieux défendu et le mieux représenté, puisque c'est un pays, une voix, à la différence de ce qu'on peut voir au Conseil de sécurité, où c'est les membres les pays qui ont le droit de voter qui imposent leur volonté. Je pense que lorsque vous mettez tout ça ensemble, on a une démarche qui est cohérente de mon point de vue, puisque elle repose à la fois sur la main tendue pour une solution diplomatique qui a été esquissée d'ailleurs dans le discours, et puis la possibilité aussi de recourir à la force armée pour défendre la souveraineté de la République démocratique du Congo sur son territoire.
Merci, on prend une petite pause avec Africa Unite de Bob Marley et on revient juste après.
Africa Unite, cause we're moving right out of Babylon. And we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man. Yeah. To see the unification of all Africans. Yeah. As it's been said already, let it be done. Children of the Rastaman, we are the children of the Ayaman. Africa unite, does the children wanna go? Yeah, yeah, yeah. Africa unite, cause we're moving right out of Babylon. Proving to our fatherland. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rastaman. Yeah. As it's been said already, let it be done. I tell you who we
c'était Africa Unite, un des classiques de Bob Marley. On revient à l'actualité cette semaine. Dans une déclaration mardi 24 septembre dans la capitale congolaise, les principaux partis politiques de l'opposition en RDC ont appelé à la libération de l'opposant Seth Kikuni et d'autres acteurs politiques incarcérés pour leurs opinions divergentes sur ordre du régime actuel. Ces opposants attirent l'attention de la communauté africaine et internationale sur ce qu'ils qualifient des dérives autoritaires qu'ils attribuent au pouvoir de Félix Tshisekedi. Ils en veulent pour preuve l'arrestation de Seth Kikuni, suivi de son incarcération dans les locaux des services de renseignement, la détention de Jean-Marc Kabound et de Mike Mukebayi, ainsi que celle des deux autres activistes pro-démocratie, Jacques Sinzahera et Gloire Sassita. Dans sa déclaration, l'opposition indique que les signaux sont au rouge en RDC et que le pouvoir actuel tend à instaurer un régime pour une pensée unique qui vise à museler l'opposition, bafouant les principes des pères fondateurs de la démocratie. L'opposition regrette le fait que les services de sécurité, notamment la DEMIAP et l'ANER, sont utilisés à des fins de répression politique et se distinguent par des traitements inhumains et dégradants. C'est Dikaba, vous êtes journaliste universitaire, vous êtes président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, Think Tank, basé à Paris. Vous avez publié récemment l'ouvrage intitulé « Le Sahel, notre Afghanistan ». Vous avez voulu nous parler, n'est-ce pas, de ces manifestations de l'opposition à Kinshasa pour exiger la libération des prisonniers politiques. On vous écoute.
Non, moi, je crois que ces manifestations, quand même, posent un enjeu important, celui de la consolidation de la démocratie en RDC, celui des libertés et du renforcement de l'espace civique. Comme il a été soulevé, vous savez, la démocratie repose sur la confiance entre les acteurs politiques. À partir du moment où l'opposition considère que le pouvoir politique utilise l'appareil d'État pour faire de la répression politique, ça pose un problème pour la démocratie. Comme on sait, la démocratie n'est jamais gagnée. Mais, à mon avis, s'il y a des régressions, comme des interpellations à caractère politique, les incarcérations à caractère politique, ça affaiblit la démocratie. Et dans le contexte actuel où ceux qui sont aux affaires en RDC ont eux-mêmes été dans l'opposition et ont connu les affres de la posture, les affres d'être dans l'opposition, à mon avis, il est quand même surprenant qu'un certain nombre de faits se produisent aujourd'hui. Moi, je ne rentre pas, je ne peux pas, toute personne accusée d'un fait est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie au cours d'un procès équitable, dit-on, habituellement. Je ne considère pas, donc je ne me prononce pas sur la culpabilité des personnes que l'opposition a citées, mais je considère que ça pose un problème de confiance entre le pouvoir politique et l'opposition, et cette confiance est nécessaire pour consolider la démocratie. Le deuxième fait sur lequel je voudrais insister, vous savez, les services de renseignement ne sont pas des services d'enquête. Et je l'ai dit, moi qui ai travaillé sur des questions terroristes, les services de renseignement ont pour vocation de faire du renseignement et de prévenir, pour prévenir la déstabilisation de l'État. Mais utiliser les services de renseignement contre des opposants, les incarcérer d'abord à l'ANR, ensuite les transférer dans le circuit judiciaire, me semble poser problème. Donc, pour quelle que soit la position dans laquelle on se trouve, surtout dans mon cas, qui est un acteur neutre, puisque je n'ai pas de position ni envers le pouvoir, ni envers l'opposition au Congo. Donc, c'est pour ces raisons-là que j'ai choisi ce thème, parce que il me semble poser un enjeu important, celui de la démocratie, du respect de l'espace civique. Et je constate avec beaucoup de distance par rapport aux deux camps politiques, qu'il n'y a pas que les partis d'opposition, puisque des acteurs de la société civile, des organisations de la société civile, ont apporté leur soutien à cette manifestation. Il me semble qu'il y a eu des représentants de Filimbi, de la Lucha. Donc, parce que au-delà même de l'orientation politique de ceux qui ont organisé, il se pose un problème, celui de la démocratie, celui de l'indépendance de la justice et celui de l'élargissement et du renforcement de l'espace civique. C'est pour cette raison que ce thème me semblait important à être versé à notre discussion d'aujourd'hui.
Seydou Dikaba, le fait que cette manifestation soit organisée dans un contexte où la RDC est candidate au Conseil des droits de l'homme de l'ONU peut signifier quoi à votre avis?
Non, moi je crois que c'est pas une façon de donner, d'amoindrir les chances de la RDC. Mais ça veut dire que lorsqu'on choisit, lorsqu'on a pour ambition d'être au Conseil de sécurité, d'être au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, il faudrait soi-même balayer devant sa porte. Si aujourd'hui la RDC est retoquée, ce n'est pas la faute à ceux qui ont organisé la manifestation. C'est aussi la responsabilité du pouvoir. Lorsque le pouvoir ambitionne d'aller à une instance où on délibère sur les questions des droits de l'homme, où on examine les violations des droits de l'homme, il faut que soi-même il soit exemplaire. Et moi, je ne considère pas que si demain, cette candidature n'aboutit pas, c'est de la responsabilité de l'opposition. Mais le pouvoir, s'il est retoqué, à mon avis, doit prendre conscience des erreurs qu'il a commises dans la gestion des questions de respect des droits de l'homme et de démocratie pour pouvoir prétendre à un siège à Genève où siège la commission des droits de l'homme des Nations Unies.
Merci, Madame Solange Gerachiga. Vous êtes membre de la société civile du Sud Kivu. Vous êtes secrétaire exécutive du caucus des femmes de cette province et aussi activiste et défenseur des droits des femmes. Est-ce que vous comprenez cette réaction des opposants en organisant cette marche pour exiger la libération des prisonniers politiques?
Vous savez, le verbe comprendre là a beaucoup de tournures. Vous savez, manifester, c'est un droit, comme vous le savez, constitutionnel. Et quand quelqu'un manifeste, il sait pourquoi. Et le pourquoi là s'inscrit dans le cadre de ses besoins et de ses intérêts. Et donc, pour moi, la manifestation de l'opposition, c'est un droit consacré par la Constitution, et donc, ils analysent, ou elle analyse, l'opposition analyse, les filles qui sont incriminées aux opposants qui sont incarcérés ou qui sont en prison, et selon eux, ils pensent que ce n'est pas juste de les détenir en prison et que leur place ne devrait pas être en prison et par conséquent, le pouvoir devrait libérer les opposants qui sont en prison. Et donc, pour moi, je comprends parce que les opposants qui sont en prison ont leurs collègues, si je peux les dire ainsi, la classe politique de l'opposition, qui a comme intérêt et besoin de voir ses opposants être libérés. Et donc, moi, je m'inscris dans le cadre de leurs droits. Et donc, personne ne peut leur refuser la manifestation. Et donc, ils savent pourquoi ils ont manifesté pour demander la libération de ses opposants qui sont incarcérés.
Merci, Willy Kalengai. Vous êtes journaliste et directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans le domaine des ressources naturelles. Vous avez suivi Saïdi Kaba qui a analysé cette question en affirmant que ces arrestations posent l'enjeu de la consolidation de la démocratie en RDC. La question des prisonniers politiques rime-t-elle avec un système démocratique ou c'est plutôt un des indices, n'est-ce pas, d'un déficit démocratique?
C'est justement ça la grande question. Je suis un peu étonné de la manière dont ce débat est placé sur le tapis, tout en remerciant Eddy Kaba de sa pertinente intervention. Mais je crois quand même qu'il y a un schéma de pensée et qui m'inquiète parce que nous assistons à un glissement dans l'usage de concepts, même qu'on parle de concepts démocratiques. Nous sommes donc en présence d'une décontextualisation. La RDC est occupée en partie par une agression. Il ne faut pas oublier cela. Il ne faut pas quitter le contexte. Le pays est occupé et nous avons chaque jour ici des Congolais qui meurent parce que d'autres Congolais ont accepté de partager avec l'adversaire et ils ont commencé à organiser une forme de complicité à l'intérieur du pays pour que cette rébellion, pour que cette agression du Rwanda réussisse. Il y a des Congolais qui ont accepté d'appuyer cette rébellion. Alors, qu'est-ce que les services de renseignement vont faire? Les services de renseignement ont l'obligation d'étendre leur surveillance du territoire et des comportements des individus pour voir, détecter qui parmi les Congolais pourrait être en intelligence avec l'adversaire. C'est donc un contexte qu'il ne faut pas perdre de vue, quand même on a des droits politiques, quand même l'existence de l'opposition est constitutionnelle, elle se doit d'être aussi une opposition républicaine. Ça signifie, face aux grands dangers, je crois que tous ceux qui ont des petits problèmes avec la justice, c'est autour des éventuelles implications par rapport à l'ennemi. Je ne dis pas que l'opposition n'a pas le droit de faire sa manifestation. Des opposants s'expriment. Il n'y a pas un pays, en tout cas moi en tant que journaliste, j'en donne beaucoup de la parole. Les opposants donnent leur point de vue sur la gouvernance, sur la manière d'être, de ce qui se passe. Mais vous allez constater qu'il y a, quand j'ai parlé de décontextualisation et d'un glissement de concept, vous allez voir que dans les terminologies aujourd'hui, on ne parle pas du pouvoir de Tshisekedi, on parle du régime de Kinshasa. C'est déjà dans le mental, hein, on veut démocratiser, on veut enlever le caractère démocratique du pouvoir qui est mis en place à Kinshasa, un pouvoir qui est issu des élections et qui a produit ses effets en mettant en place des institutions de la République. Mais vous allez voir que la plupart des gens qui prennent la parole ont déjà condamné ce régime. On l'appelle même régime de Kinshasa. Parce que c'est un régime, ce n'est plus un pouvoir démocratique. Même s'il peut y avoir des déviances, je ne verrai pas un journaliste français appeler le pouvoir de Macron les régimes de Macron. Vous voyez, c'est parce que justement nous sommes déjà prépositionnés. N'empêche, je pense que ce qui est regrettable, c'est peut-être, et il a raison, Dikaba, quand il parle de passer par le service de renseignement comme une étape préjudicielle, ce n'est pas bien. Quand quelqu'un est comme ça, il faut qu'il ait droit à la visite, il faut qu'on le juge dans les normes en respectant les procédures légales. Le passage presque préalable par le service de renseignement ne donne pas une bonne image du pays. Mais nous devons protéger notre propre régime constitutionnel qui est démocratique, en évitant, à chaque fois qu'il y a une dérive, même si elle est localisée, de condamner tous les pays. Voilà, donc c'est un sujet, moi je considère qu'il y a à boire et à manger, les libertés existent, mais quand il y a la guerre, chaque Congolais doit savoir que les droits sont limités d'une certaine manière, même la pensée elle-même. Et elle doit d'abord s'inscrire dans une logique républicaine, patriotique. Et ce n'est pas moins intellectuel que d'être un patriote. Ça ne diminue en rien la valeur d'un être humain. Parce qu'il y en a qui estiment que, bon, pour montrer qu'ils sont très objectifs, ils peuvent même être injustes à l'égard de leur propre nation.
Oui, vous avez évoqué le contexte, n'est-ce pas, de la guerre. Et donc, vous voulez dire par là qu'il est inconcevable qu'un pays comme le nôtre, qui est dans une situation de guerre, puisse renoncer à avoir des prisonniers politiques?
Les prisonniers politiques, c'est même un mot qui est lui-même un peu galvaudé. Vous savez, si des gens ont été arrêtés pour leurs opinions, parce qu'ils défendent une opinion politique précise, alors ils n'ont pas de place en prison. Notre constitution et le pacte républicain et qui a été décidé à Saint-City en 2002, il y a plus de 20 ans, refuser constamment qu'on produise des prisonniers politiques. On ne peut pas avoir des prisonniers politiques. S'il y a des gens en prison aujourd'hui sous le label de prisonniers politiques, c'est un abus. Mais moi j'estime quand même que nous ne sommes pas à l'intérieur des dossiers. Et chaque personne qui est dans un dossier, qui est aujourd'hui incarcéré, il doit avoir des faits matériels qu'on lui reproche. Ce que nous demandons, c'est que la justice soit dite et que les droits de la défense sont respectés. Mais que l'État se défende, oui, l'État doit se défendre aussi par rapport aux citoyens, quel qu'il soit leur niveau, l'État est quand même le défenseur de tous. Voilà ce que je peux dire.
Merci, chers auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. L'artiste musicien Héritier Watanabe s'est produit à Paris à la scène musicale le 21 septembre dernier. On va écouter une de ses chansons intitulée Novelas et on revient juste après.
Le prince Yannick Sinis, Nengaya Terukeba, avec des amis composés. Nos valeurs à Terukeba, Nengafote, 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 Nengafote,
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer à revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet du discours que le chef de l'État congolais a prononcé à la tribune des Nations Unies mercredi 25 septembre à l'occasion de la 79e session de l'Assemblée Générale de l'ONU. Nous avons également analysé la manifestation de l'opposition à Kinshasa pour exiger la libération des prisonniers politiques. Participe à cette émission, Willy Kalenga, il est journaliste et il est directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturelles. Madame Solange Loachiga, elle est membre de la société civile du Sud Kivu, elle est secrétaire exécutive du caucus des femmes de cette province et aussi activiste et défenseur des droits des femmes. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, c'est Eddy Kaba, il est journaliste universitaire, il est président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, Think Tank, basé à Paris. Il a publié récemment l'ouvrage intitulé « Le Sahel, notre Afghanistan ». Depuis le début de l'opération lancée par les ministres de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, plus de 2550 détenus ont été libérés en l'espace de 2 mois à la prison centrale de Makala, Kinshasa. La dernière vague de plus de 1500 détenus a été libérée le week-end dernier. Selon Yves Kisombe, le porte-parole du ministre Constant Mutamba, cette opération va se poursuivre jusqu'à ce que la loi soit respectée en matière de la détention. Cependant, tout en encourageant cette vague de libération des détenus en vue de désengorger la maison carcérale de Makala, d'aucuns estiment qu'il faudra que le gouvernement s'attelle à améliorer les conditions carcérales et aussi à prendre les dispositions utiles pour qu'à l'avenir, aucun citoyen congolais ne fasse l'objet de détentions illégales. Madame Solange Loachiga, vous avez opté pour ce sujet, on vous écoute.
Merci beaucoup. Je pense que la mesure prise par le ministre de la Justice, c'est une mesure à saluer. parce que les conditions carcérales dans notre pays, en tout cas, ça cause la honte. Et comme il l'a dit, le ministre, parmi les objectifs ou les visées, c'est cette question de désengorger les prisons, et particulièrement, moi je parle, et je dis particulièrement, c'est moi qui l'ai dit, la prison de Makala. Et donc, pour moi, cette libération a soulagé, transformé le choc, le désespoir de certains prisonniers, de certains détenus qui ont été libérés, même si beaucoup de questionnements planent autour de la prise en charge de cette mesure. Cette mesure qui a été prise, des questionnements se disent, est-ce que c'est parce qu'il y a eu des dénonciations sur les conditions carcérales dans la prison de Makala? Et c'est cette question qui m'amène à me poser la question de savoir quelle portée a cette mesure, donc quelle portée au niveau national, est-ce que tous les lieux carcéraux seront concernés, et si réellement cette mesure vise le désengorgement des prisons. Toutefois, malgré ces questions, moi je pense que nous devons voir d'abord du côté positif pour dire le ministre a pris le courage. Il a pris le courage parce que c'est historique de voir une telle initiative en matière de la détention au niveau de la République démocratique du Congo. Mais des questionnements, est-ce que cette mesure est durable? Est-ce que la durabilité, c'est pour dire on va refonder la justice est juste, ou bien c'est pour soulager les prisons ou un mal d'infrastructure, les désengorgements? Est-ce que cela signifie que les prisons sont bien pleines? Bien sûr, parce que même dans les provinces, dans notre province du Sud-Kivu, la prison centrale est pleine. Et donc, nous devons voir le côté positif de cette mesure, mais nous devons encourager le ministre à prendre des mesures d'encadrement, parce que dans ce cas, la situation n'est pas complète. Parce que les gens qui ont été libérés, quelle est leur situation actuellement? Il y a ceux-là qui ont acquis des habitudes qui ne sont pas bonnes. Est-ce qu'en les libérant, ils ne vont pas encore redevenir des bombes à retardement parce qu'il n'y a pas de mesures de prise en charge après leur libération? Bien sûr que cette mesure répond à certains problèmes, mais c'est parce et c'est ce partiel-là qui doit amener le ministre à creuser davantage pour voir comment est-ce que les problèmes de justice qui persistent peuvent être résolus. Parce qu'aujourd'hui, il y a des criminels, des grands criminels, je vais mettre présumé, mais on les voit, qui déambulent dans les rues au moment où les personnes qui commettent des faits bénins sont en prison. Et donc, il faut aller plus loin, plus loin. Ce plus loin signifie aussi que les infrastructures, par exemple, pénitentiaires, devraient être améliorées. Le délai des jugements, par exemple, c'est pas toujours respecté. Et donc, il y a vraiment tout un programme qui devrait être repensé pour que cette initiative, cette mesure du ministre de la Justice soit vraiment une mesure durable et que des fruits puissent être vécus. Et donc, même si quelque chose est fait, le chemin de la justice équitable reste long en République démocratique du Congo. Nous, nous sommes près de la population. Il faut voir ce qui se passe dans les territoires. Même parce que une vache, parce qu'une chèvre a brouté quelques tiges de manioc, tu vois quelqu'un rester en prison pour de tels faits, et pourtant même au niveau communautaire, ça devrait être résolu. Et donc au niveau de la justice aussi, ils doivent être plus humains et voir les questions qui devraient être ramenées au niveau des médiations communautaires, au lieu de se taper la poitrine en instruisant des dossiers, même pour des faits qui sont bénins.
Merci, merci Sidi Kaba. Le revers de la médaille de cette mesure, de cette opération, ne serait-elle pas le fait que des potentiels criminels vont penser qu'on ne pourra plus les poursuivre s'ils commettaient des infractions parce que le gouvernement n'a pas où les incarcérer, et du coup cela pourrait encourager, n'est-ce pas, la commission de certaines pratiques répréhensibles? Est-ce qu'il ne faudrait pas que le gouvernement puisse prendre des mesures d'encadrement comme le propose Mme Solange Loachiga?
Non, je n'ai pas le sentiment, je n'ai pas d'appréhension que cette mesure se transforme en une prime à l'impunité et que les gens considèrent que le fait de commettre une infraction parce qu'il n'y a pas de place, ils ne seront pas incarcérés. Parce que, d'après ce que je comprends, c'est une mesure qui a été prise au cas par cas, après l'examen du dossier de chaque personne. Et au-delà du caractère salutaire pour désengorger des prisons, parce que on a eu des échos de mesures des gens qui sont en détention préventive depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis 8 ans, et il y a même un cas, je crois, d'une vingtaine d'années, une personne qui était détenue depuis une vingtaine d'années, dont le cas a mobilisé, a imposé même le déplacement du procureur général jusqu'à la prison de Makala. Mais au-delà de cette mesure qui a été prise au cas par cas, qui ne me semble pas être une prime à l'impunité, il faut faire évoluer la législation elle-même. Je connais des pays où les magistrats sont enfermés dans un temps. La détention préventive ne doit pas dépasser 2 ans. Et où la détention préventive, ça suppose justement que qu'on fasse une évolution de la législation, mais qu'on renforce aussi les moyens de la justice, à la fois en ressources humaines et en ressources techniques, en ressources matérielles, pour que la justice puisse être avancée. Et il faut aussi trouver, à mon avis, engager la réflexion, puisque le défi, c'est qu'il y a aujourd'hui une suroccupation des prisons avec des occupations de 150% par rapport aux capacités, de 160% et au-delà même. Ce qu'il faut engager, c'est aussi une réflexion pour voir si on ne peut pas trouver des alternatives à l'incarcération. Madame a évoqué, ma co-débattrice, des personnes qui sont incarcérées parce que les animaux ont mangé des animaux, ou un petit différent, parce que quelqu'un a pris de l'argent, a emprunté de l'argent, une petite somme minable et qu'il n'a pas été capable de rembourser dans le délai, on le met en prison, il devient une charge pour l'État, parce qu'il faut proportionner la peine à l'infraction qui a été commise. Et de ce point de vue, il y a à mon avis une réflexion à engager, à la fois en RDC, mais aussi dans nos pays africains, où on se retrouve aussi avec le taux d'occupation des prisons qui est très élevé. Et aujourd'hui, avec cette volonté du ministre de désengorger les prisons, donc il faut aller de l'avant, moi j'encourage en tout cas, à regarder au cas par cas des situations où des individus peuvent être élargis, ils ont des garanties de représentation, si la justice a besoin de... Parce que ce qu'on constate, cher Guy Maté, c'est que souvent, les gens sont mis en prison et on n'a pas besoin d'eux pour poursuivre l'enquête. Parce que quand on met quelqu'un en prison, c'est pour la nécessité d'enquête. C'est-à-dire que si on veut faire l'enquête et qu'on a besoin de lui, il y a des gens qui sont incarcérés et qui n'ont pas été entendus depuis 2 ans, depuis 3 ans. Donc, leur présence n'est pas nécessaire à la poursuite de l'enquête. Il faut intégrer tous ces paramètres-là pour que la prison soit un lieu de correction, mais qu'elle ne se transforme pas en enfer, parce que le prisonnier a vocation un jour à sortir. Il faut préparer sa sortie, sa réinsertion sociale, pour éviter justement les cas de récidive que l'on peut craindre.
Merci Willy Kalengai. Au-delà de cette mesure, il y a cette divergence entre le ministre et les magistrats. À votre avis, comment faire pour harmoniser la divergence entre le ministre de la Justice qui interdit les transferts ou les transférements des détenus à la prison de Makala et d'Indolo et les magistrats qui pensent le contraire?
Justement, Guy Maté, je crois que nous sommes devant ce qu'on appelle la tragédie des nations pauvres, et ce n'est pas péjoratif dans mon esprit. Ça signifie, quand on est pauvre comme le Congo ici, chaque décision qui est prise produit de nouvelles conditions de contrariété. Je crois que cher ami Kapai a bien saisi ce que je veux dire. C'est que en même temps que l'on prend une décision, elle est bonne, mais parce qu'on est un pays qui n'a pas assez de moyens, on n'étend pas la réflexion dans tous les aspects. Alors, soulager les prisons ainsi désengorgées, c'est une chose, mais remettre des délinquants en circulation sans moyen de leur surveillance, c'est aussi un autre problème. Ailleurs, et pour ne pas monopoliser la parole, ailleurs, par exemple, quand on laisse des personnes dont la moralité, les actions peuvent être répréhensibles, aux États-Unis, ailleurs, on fait des bracelets électroniques. On donne aux gens pour savoir, où, on leur donne un peu un minimum de surveillance. Il y a même ce qu'on appelle des titeurs policiers. On s'est dit, bon, vous êtes libéré, c'est vrai, vous avez peut-être 2-3 ans encore à puiser, ou vous n'avez peut-être encore condamné, mais on va quand même vous regarder pour que vous ne soyez pas un danger pour le reste de la population. Ça, il faut le faire, il faut avoir des moyens que nous n'avons pas. Alors, évidemment, aujourd'hui, le problème qu'il y a entre les magistrats et le ministre, c'est un problème toujours des nations pauvres. Parce que, pour ne pas encombrer les prisons, on construit des maisons d'arrêt. Ça signifie que des maisons où les personnes sont retenues pendant une période relativement très courte, où on va les laisser partir, où on va les envoyer dans la grande prison, où ils vont purger leur peine. Ne vont en prison que ceux qui ont été condamnés et qui ont une peine à purger. Alors, quand vous n'avez pas encore été condamné, vous êtes dans une maison d'arrêt. Il n'y en a pas, malheureusement, ici. Nous avons à peu près quelques 3 cachots qui sont liés autour des grands par tribunaux. Vous connaissez la peur du camion qui passe vendredi. Alors, si on vous arrête vendredi, il faut avoir peur que le camion ne passe, parce que le camion qui vient passer vous prend, même si vous n'avez pas été jugé, vous allez à Makala. Voilà, donc il faut construire des prisons, il faut construire des maisons d'arrêt, mais la relation entre les ministres et les conseillers de la magistrature se doit d'être réglée par les textes. Ce sont les textes qui règlent cela. Je crois que nous avons encore un problème à affiner les textes pour que le ministre ne soit pas le grand patron de l'action judiciaire. L'action publique est menée par les magistrats. Les magistrats ici, ils doivent aussi être soumis à une véritable éthique, et je crois que la purge qui a commencé, elle doit se faire d'abord au niveau de leur propre conseil supérieur de la magistrature. C'est là qu'il faut que la discipline puisse entrer. Le ministre regarde les conditions générales des détentions dans le pays, des poursuites, il regarde si la loi est respectée. Mais il ne peut pas se transformer non plus en un grand shérif, hein, ça énerve les procédures par rapport aux magistrats.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Assi Bonanga de Johnny Clegg, on se retrouve après.
Assi Bonanga,
Assi Bonanga, Mande la Tina, la paix Kona, la paix Sedi Kona.
Assi Bonanga,
Assi Bonanga, Mande la Tina, la paix Kona, la paix Sedi Kona. We cross the burning water.
bonanga bona mumfo wetu tina la pekuna la wafela kuna
Victoria Mtenge
hasi bona kutati wetu tina la pekuna la wafela kuna
Neil Agate
hasi bonanga
C'était Asi Bonanga, sorti en 1987 et composé et interprété par Johnny Clegg, surnommé les Zoulous Blancs. Il sort ses tubes Asi Bonanga pour réclamer la libération de Nelson Mandela. Asi Bonanga en Zoulou veut dire celui qu'on n'a pas vu. Johnny Clegg est né le 7 juin 1953 au Royaume-Uni et mort le 16 juillet 2019 à Johannesburg. Et il est un auteur, compositeur, interprète, musicien, anthropologue et militant sud-africain, paix à son âme. Je rappelle que nous avons dans cette émission Willy Kalenga, il est journaliste et il est directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturelles. Madame Solange Bachiga, elle est membre de la société civile du Sud Kivu, elle est secrétaire exécutive du caucus des femmes de cette province et aussi activiste et défenseur des droits des femmes. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, c'est Eddy Kaba, journaliste et universitaire, il est président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, Think Tank, à Paris. Il a publié récemment l'ouvrage intitulé « Le Sahel, notre Afghanistan ». Le département du travail des États-Unis d'Amérique a inclus cette semaine le cobalt de la RDC dans la liste des biens produits par les enfants en 2024. Cobalt Institute l'a fait savoir au gouvernement congolais dans une note dont une copie est parvenue mercredi 25 septembre à Radio Okapi. Ce document a établi un lien entre le travail forcé dans la chaîne de l'exploitation minière artisanale et industrielle du cobalt en RDC. Le cobalt congolais est l'un des 29 nouveaux produits ajoutés à la liste noire des TVPRA, y compris les minerais de cuivre de la RDC et de la Zambie. Cobalt Institute a toutefois précisé que l'inclusion du cobalt congolais dans la liste ne signifie pas nécessairement que ces marchandises seront automatiquement arrêtées aux frontières des États-Unis. Néanmoins, ajoute cette organisation, le cobalt congolais augmente la possibilité qu'il fasse l'objet d'un examen plus approfondi de la part des autorités américaines en raison des interdictions d'importation. Willy Kalengai, vous avez souhaité nous parler de la décision du département du travail des États-Unis d'Amérique qui vient d'inclure le cobalt congolais dans la liste des biens produits par le travail des enfants. On vous écoute.
Merci, cher ami Guy Maté. Je vous remercie d'abord pour la chanson tout à l'heure de Johnny Clegg. Elle m'a ramené à des souvenirs très importants. Enfin, revenons sur ce dossier. En effet, l'inclusion du cobalt de la RDC dans la liste des produits soumis au travail forcé a été motivée par une étude qui a été financée en 2023 par l'ILAB. L'ILAB, c'est l'International Labour Bureau. Donc, c'est un bureau du ministère du Travail qui s'occupe effectivement de regarder les conditions de travail dans le monde, pas seulement aux États-Unis. Alors, dans ces rapports, ils révèlent que les travailleurs des mines industrielles et artisanales étaient soumis au travail forcé. J'y reviendrai là-dessus. Cette étude donc a mis en évidence des indicateurs de travail forcés, notamment les heures supplémentaires, qui sont excessives selon le rapport, les travaux dangereux, les licenciements, les salaires impayés, les amendes, la servitude pour dette et des conséquences négatives sur les droits humains. Cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le monde congolais parce que vous savez que notre budget national dépend de plus de 80% de retombées minières. On ne peut donc pas toucher le premier produit. Le Congo est le premier producteur du cobalt dans le monde. Donc si le cobalt congolais est frappé par cette mesure, alors il y aura des conséquences sur les moyens qui peuvent revenir au Congo. C'est un rapport qui a effectivement suscité beaucoup de réactions. Déjà, l'entreprise générale du cobalt, l'EGC, a déjà réagi en disant effectivement que elle, en tant que filiale de la Gécamine travaillant sur le cobalt artisanal, a déjà mis en place toutes les conditions pour que le cobalt se fasse et se travaille et se vende dans de très bonnes conditions. Il y a eu effectivement beaucoup d'autres réactions par rapport à cela. Le ministère des Mines va certainement réagir dans les heures qui viennent. Le SAIMAP, qui est l'organe qui s'occupe des travailleurs, donc de l'artisanat, a aussi réagi. Et nous sommes devant une forme de malentendu. Alors, quand nous regardons le premier élément qui est cité, parce qu'on ne dit pas que le cobalt congolais est touché parce qu'il est artisanal, non. Les conditions de travail, même dans les entreprises traditionnelles, les multinationales qui sont implantées, dans ces conditions-là qui sont la cible des Américains, ils estiment, eux, que les travailleurs ne sont pas bien payés. Ils travaillent beaucoup à des heures excessives, il n'y a pas des heures supplémentaires qui sont payées. Et comme nous avons une autre loi qui entre en ligne de compte, la loi sur la sous-traitance, donc les entreprises qui gagnent les sous-traitances dans les compagnies minières, elles ne respectent pas la loi. Tout cela intervient dans un contexte d'une guerre commerciale entre les Américains et les Chinois. N'oubliez pas que la production mondiale, effectivement, et 70% dans le pays, nous sommes autour de à peu près, donc les Chinois ont la majorité, ont récupéré la production du cobalt congolais. Ce qui fait que les plus grandes mines qui sont en exploitation aujourd'hui dans notre pays, pour la production du cobalt, sont des mines à capitaux chinois. Et quand vous lisez le rapport que les départements américains produisent, les rapports signalent effectivement vers la fin que, évidemment, toutes ces mines sont entre les mains des Chinois. Ne serons-nous pas en présence d'un rapport qui aurait été mis en musique pour pouvoir combattre la suprématie chinoise sur le cobalt chinois? Cette question, elle vaut son pesant d'or. Mais néanmoins, je ne voudrais pas aller dans la spéculation. Je voudrais simplement dire que aujourd'hui, il faut que les gouvernements fassent beaucoup d'efforts pour pouvoir régler cette question. Il faut que le ministère du Travail, le ministère de Mines et des Affaires Sociales convergent vers une synergie afin de régler ces questions qui sont quand même objectives. Et je venais de visiter un des endroits dont il est question ici. Le malentendu est très grand. Vous voyez, autour des zones minières artisanales, vous avez des gens, des jeunes gens qui viennent d'autres provinces, voire même de la même province, mais un peu plus bas, et il n'y a pas de cité. Alors ces jeunes gens fabriquent des maisons en baraquement et vivent avec leurs enfants et leurs familles dans ces sites miniers. C'est leur famille, ce sont des petites maisons. Et quand quelqu'un vient pour visiter, il voit bien les enfants, il voit bien les femmes. Mais ce sont des femmes et des enfants dans des maisons où ils habitent. Alors que la mine est à 100 mètres ou 200 mètres, où les chefs de famille vont travailler. Tout ça, ça fait un malentendu dans les rapports. Voilà un peu ce que je peux dire, pour ne pas monopoliser la parole, cette question. Elle demande effectivement que les mines artisanales soient révisitées en coopérative et que les coopératives soient aussi mises en place en respectant les normes. Parce que les chiffres sont terribles. Nous avons 100 mines artisanales aujourd'hui dans la zone du cobalt. Il n'y a que 58 qui sont viables. Les restes, condamnables.
Merci. Saïdi Kaba, est-il possible ou facile de mettre fin au travail des enfants dans les sites miniers artisanaux ou industriels, dans un environnement où la précarité bat son plein, dans un environnement où les jeunes ne voient pas d'autres opportunités que celles, n'est-ce pas, de travailler dans ces secteurs miniers en général et du cobalt en particulier?
Oui, c'est une question absolument intéressante et qui dépasse le cadre de la RDC, puisque nous avons au Sahel aussi, en Afrique de l'Ouest, et sans doute en Afrique centrale aussi, la question de l'exploitation artisanale, de l'or, par exemple, l'orpaillage traditionnel artisanal, où on voit des jeunes qui partent dans l'espoir, justement, de garder, de pouvoir récupérer des pépites d'or qui vont être revendues pour les besoins d'eux-mêmes et de leur famille. Il y a même un impact sur la scolarité des enfants. Beaucoup d'enfants se sont déscolarisés pour aller justement dans ces mines, dans ces exploitations artisanales. Je crois qu'il faut engager la réflexion pour voir comment on peut soustraire ces enfants de cette activité, d'abord en les amenant à l'école plutôt que les laisser aller à la mine, Ensuite, en leur offrant des opportunités pour qu'ils puissent avoir d'autres espérances que celle d'aller creuser la terre pour avoir une pépite d'or ou une petite de cobalt qu'ils vont revendre par la suite. Et de façon générale, à mon avis, il y a un besoin d'encadrement parce que ces mines artisanales souvent échappent à toute autorité, à tout contrôle. Tout peut arriver. Vous avez suivi sans doute les éboulements qu'il y a eu, des mines qui tombent carrément sur des individus et on arrive à avoir des dizaines, des centaines même, souvent des décès parce que on est dans une exploitation. Donc, il y a un besoin de législation qui encadre, que l'État ait des services qui puissent encadrer ces mines pour éviter justement que les enfants puissent y aller travailler. La place des enfants n'est pas dans ces mines, elle est à l'école. Et s'ils n'ont pas réussi à l'école, il faut leur offrir des opportunités. Je crois que la réflexion doit être globale et peut-être qu'il faut saisir ce rapport qui a été fait par les États-Unis. Il faut en faire une opportunité pour justement envisager ces questions, voir comment elles peuvent être réglées. Sans doute, je suis absolument d'accord avec le confrère et mon co-débatteur.
Oui,
il a dit que les Américains ont sans doute une arrière-pensée parce que, vous savez, la rivalité entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui, elle est devenue globale. Voilà, elle porte sur le composant, elle porte sur ceci, elle porte sur Huawei, elle porte sur... Donc, il y a beaucoup de rivalité et dès que les États-Unis ont une opportunité où ils peuvent gêner une activité économique qui est faite par les Chinois, ils vont la saisir. Mais profitons-en pour voir quelles sont les insuffisances qui ont été relevées et comment on peut les corriger et travailler avec d'autres acteurs. Je sais que, par exemple, l'Organisation internationale du travail travaille beaucoup sur ces questions du travail et des enfants. Il faut voir comment tout cela peut être encadré. Et à mon avis, il faut même une réflexion globale qui va au-delà de la RDC, qui inclut les autres pays africains pour qu'on puisse trouver une solution au travail des enfants, particulièrement dans les mines qui retardent leur scolarité et qui les exposent.
Merci Madame Solange Vachiga, on va finir cette émission avec vous. Vous êtes défenseur des droits des femmes, on sait que parmi ces enfants il y a beaucoup de jeunes filles. Quelles recommandations pouvez-vous formuler à l'endroit du gouvernement pour décourager justement le travail des enfants dans les secteurs miniers en RDC?
Oui, d'abord je pense que ce rapport, c'est un rapport vrai et notre pays devrait jouer à la proactivité quand il y a des mesures, quand il y a des conseils dans un domaine, il est important que les ministres sectoriels et le gouvernement puissent ouvrir les oreilles, travailler. Ce que je demande au gouvernement congolais, vraiment à se lire, hein, ces secteurs miniers et mettre en place des programmes qui vont être bénéfiques à ces enfants. Bien sûr, on a parlé de la scolarisation, non seulement la scolarisation, mais aussi travailler pour que les conditions de vie des Congolais et Congolaises s'améliorent. Parce que la pauvreté qui est dans notre pays, malgré tout ce qu'on a comme richesse, fait que les familles, les femmes et leurs enfants vont dans les mines pour chercher la survie. Et donc, je pense qu'il faut vraiment rendre effectif l'accès à l'éducation et aussi que l'action gouvernementale en termes de programmes puisse avoir des indicateurs positifs sur les changements des conditions de vie de la population et donc que les familles se sentent qu'ils ont à manger, les parents ont un salaire et que ce secteur minier vraiment suive des règles selon le niveau international.
Merci. Merci, merci. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Solange Vachiga, Monsieur Seydi Kaba et Monsieur Willy Kalengai. Merci aussi à Dieudonné Nyangasa qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, Didier Dadi et d'Hervé Voka et de Debs Vita sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Kapi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiokapi.net. On se sépare avec Marie Ambo des Grands Maquisards avec Dalian Stéphane Zitani et on se retrouve le samedi prochain.
kia sono pasi nesango Yo kaboli neli bala Mabenyo selome na mose mananga Na yanga na kio mingi Baninga bako evi sanga lize lize Uzali wanga imote mama mama Nalingia nazali seko sala sabwa Na mimoni sono zoba Mamia moka mote mamanga Nasengiose olimbi sanga Kosamba samba mariloise Ezali peso ni mingi Nayoki balobi na kombi na mbanda Nasengiose otika Na kombi na epembe na kokota samba Nimelanga impona bika
Yo Marie-Louise, do we need na kobonela